possible, chers amis, de plaire à notre Maître. Le Seigneur Jésus lui disait cela déjà dans l'Évangile. Il est bon, notre Dieu, avec nous. Il n'est pas là en train de nous fouetter à tout moment, en train de nous dire « Non, ça ne va pas ce que je vois chez vous. » Alors, gardons cela en tête lorsque nous abordons ces différentes facettes de la justice qu'il évoque par la suite. Donc, 6 facettes que j'avais mis sur la feuille pour vous. Chaque fois, Jésus démarre ses propos en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit. » Il cite l'Ancien Testament ou il cite aussi une tradition d'interprétation de l'Ancien Testament. Et puis, nous avons vu ça la semaine dernière, et puis il donne son propre enseignement là-dessus, avec une introduction qui dit « Mais moi, je vous dis. » Et donc, nous aborderons, j'espère, assez brièvement les 6 questions qui ont pour but de mettre en lumière l'application chaque fois centrale de ce que Jésus dit. C'est pour ça que j'ai intitulé chacun de ces points avec une question. Donc, première question, c'est laquelle? Qu'en est-il de votre attitude envers les autres? Alors là, on va lire d'abord le texte pour nous plonger là-dedans, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quelconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible au Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la gaine du feu. Alors, raca, c'est une façon de l'époque d'insulter quelqu'un, de l'appeler imbécile ou quelque chose de ce genre. Et Jésus, ici, il parle, bien sûr, comme tout au long du sermon, de manière très catégorique et antithétique, un style, on dit, sémitique, qui va à l'essentiel de ce qu'il veut évoquer. Il n'est pas en train de dire qu'il y a une équivalence morale directe entre un meurtre et une mauvaise pensée par rapport à quelqu'un d'autre. Mais il est en train de dire que le début d'un meurtre n'est pas l'acte meurtrier en lui-même, c'est l'agression, le mépris par rapport à quelqu'un d'autre. Cette colère-là, laissée à elle-même, mène au meurtre. Et donc, ne pensons pas que nous sommes, moralement parlant, dans une autre catégorie de justice si nous n'avons pas nous-mêmes commis cet acte de meurtre. Ce n'est pas donc à mon honneur que je dis à mon épouse de temps à autre, lors d'une journée difficile dans le couple orange, « Tu as fait de moi un meurtrier aujourd'hui, chérie. » Jésus, de pas les 2 exemples qu'il donne à partir du verset 23, explique qu'il faut tout faire pour chercher la paix lorsque ces pensées-là arrivent. Il faut chercher la réconciliation. Cela fait preuve de fraternité, d'un esprit doux qui caractérise ceux qui font partie du royaume des cieux. Au lieu donc, il dit, d'inutilement continuer à offrir mon offrande, car cela donne un cadre religieux pour cacher un peu mon péché, si vous voulez. Non, il faut chercher à ce moment-là ton frère ou ta sœur, d'être réconcilié avec lui, avec elle, et puis présenter ton offrande. Oui, arrange-toi vite avec ton adversaire, avant qu'il soit trop tard. Et le jugement tombe. Oui, c'est vrai que toute colère n'est pas exclue par ces propos de Jésus, car une colère sainte existe dans la Bible, mais une telle colère, dont Jésus lui-même parfois faisait preuve, est motivée toujours par le bien des autres et la gloire de Dieu, et n'est jamais en train de chercher une revendication personnelle. Nous, au contraire, nous sommes souvent trop lent à la colère lorsqu'il s'agit de la gloire de Dieu et le bien des autres, et trop vite à la colère lorsque nous sommes affrontés et offensés personnellement. Vous savez que George Foreman, donc celui qui a perdu le match à Kinshasa, suite à sa défaite, avait de la rage à propos d'Ali. C'est lui qui voulait plutôt tuer Ali que le contraire. Et l'injustice, en fait, qu'il soupçonnait autour du combat, parce qu'il y avait tout un George Foreman, alors je ne sais pas exactement les détails, il est devenu chrétien. Et en 1981, un journaliste est venu dans son ranch aux États-Unis et lui a demandé « Que s'est-il passé en Afrique, George ?» Et George a répondu « J'ai dû le regarder dans les yeux et lui dire « J'ai perdu, il m'a battu. Avant cela, je n'avais que la vengeance et la haine en tête. » Mais à partir de ce moment-là, c'était clair, je ne pourrai jamais gagner ce match. Alors j'ai dû laisser tomber. Ensuite, il s'est réconcilié, lui, avec Ali. Il l'a considéré comme un grand ami à la fin de sa vie. Il a essayé aussi, d'après ce que j'ai compris, de partager la bonne nouvelle de Christ avec Ali. Alors qu'en est-il de votre attitude, chers frères et sœurs, envers les autres? Quelqu'un m'a une fois dit par rapport à une sœur de son église qu'elle faisait exprès de ne pas parler à cette personne, tout en ayant de la joie de chanter les louanges de Dieu tous les dimanches dans la chorale. Qu'en est-il deuxièmement du regard que vous portez sur d'autres femmes ou hommes? Deuxième élément à partir du verset 27. Jésus cible ici ce qui est derrière l'adultère. Derrière l'acte d'infidélité envers ta femme, Jésus ici s'adresse aux hommes, il y a ce qui se passe au préalable. Regarder une femme de façon à la désirer, c'est déjà avoir commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Comme dans le premier exemple, Jésus ne dit pas que le désir de coucher avec quelqu'un d'autre est sur le même niveau de gravité que l'acte lui-même, mais il fait comprendre qu'il n'y a pas de grande distance morale de nouveau entre celui qui commet l'acte et celui qui ne le fait pas, mais qui dans son cœur l'a aussi commis de l'adultère. Désirer une femme, c'est de la convoiter, de traiter une femme comme un objet ultimement pour ma satisfaction personnelle. Bien sûr, Jésus ne dit pas que le simple constat qu'une autre personne est belle ou jolie est en lui-même adultère, mais cela devient le cas lorsqu'une simple observation devient le désir d'avoir cette personne, de la déshabiller mentalement. C'est possible, vous voyez, de commettre le péché sexuel dans nos pensées, nos fantasmes, nos lectures, nos écrans, nos sentiments. Et la justification que notre monde sort à tout moment par rapport à cette question, c'est que nous ne devons pas nier ce que nous ressentons. Nous devons donner libre cours à ce que nous ressentons, parce que ce que nous ressentons, ça vient du plus profond de chez nous, c'est authentique. Et si Dieu est amour, ne veut-il pas alors que je donne suite à cet amour que je ressens? Mais lorsque mes sentiments me disent ce que je désire est sincère ou normal, au lieu de céder à mes sentiments, si nous sommes disciples de Christ, nous devons nous entraîner notre cœur de ne pas être aveuglé par ses sentiments, de ne pas confondre l'amour avec le désir. Car le désir veut quelque chose de l'autre pour soi. Et l'amour se donne de lui-même pour le bien de l'autre. La sexualité, bien sûr, est un don de Dieu. Mais Dieu a donné le cadre pour que cela fonctionne et pour que l'autre soit protégé de toute dérive. Le cadre d'une relation exclusive et à vie entre un homme et une femme. Alors que faire face à cela quand nous sommes... Que faire, pardon, face à cela quand nous sommes tous concernés, n'est-ce pas? Que nous soyons hommes ou femmes. Jésus ne nous invite pas à prendre à la lettre ce qu'il dit, d'arracher mon œil, de couper ma main. Pourquoi? Car cela ne résoudra pas le problème. C'est dans mon cœur que cela arrive, il dit. Même si on est aveugle, c'est encore possible donc de pécher. Non, il le dit afin d'être impitoyable dans ce domaine, contre ce péché. Car tout péché, y compris le péché sexuel, mène au jugement et à l'enfer. Au lieu de nourrir des pensées de luxure en disant que c'est secret, donc c'est moins grave, personne ne le voit. Non, le chrétien doit être sévère avec ce péché. Je pense que c'est possible par application de ce principe de chercher à mettre en place certains principes ou pratiques qui ont pour but que je ne me mette pas dans une situation où je serais susceptible de pécher de cette manière-là. Dans le milieu évangélique, on a parfois des règles, parfois non dites, de comment est-ce que nous devons se comporter dans un domaine ou un autre. Donc parfois on dit de faire attention si je suis un homme marié, de ne pas me retrouver seul avec une autre femme dans la même pièce, ou de mettre, si je lutte avec les images sur mon écran, et quelqu'un m'a dit que c'est au moins 50% des hommes ici présents pour qui cela est le cas, hein, de mettre donc un logiciel de protection sur notre ordinateur, notre téléphone, ou peut-être de ne pas avoir de smartphone du tout, si le smartphone me mène au péché, etc., etc. Alors moi, je comprends la motivation derrière de telles recommandations. Mais il ne faut pas oublier que de telles solutions ne résoudront pas non plus le problème du cœur. Car c'est là le problème, dit Jésus. Je pense à quelqu'un qui, chaque fois qu'il faisait preuve de ce péché de voir des images, il a carrément mis son écran à la poubelle. Mais ensuite, il en a acheté un autre. Et rebelote. Là où il faut être radical, ultimement, chers amis, c'est au niveau du cœur. C'est de lutter, d'être indéfatigable par rapport à cette lutte. Qu'en est-il, troisièmement, de l'engagement envers votre conjoint? Versets 31 et 32. La loi, telle qu'elle a été interprétée par certains scribes et pharisiens de l'époque, permettait le divorce pour peu de choses, y compris pour des trucs aussi débiles que le fait de brûler le repas familial. Alors si Jésus avait été d'accord avec cette façon d'interpréter les Écritures, le divorce dans le foyer orange aurait pu être déclenché plusieurs fois, n'est-ce pas, ma magnifique épouse? Mais selon Jésus, le mariage, c'est pour la vie. Le divorce n'est pas permis, sauf, Jésus dit ici, lorsque l'alliance est rompue de par l'immoralité sexuelle. Et même là, ce n'est pas forcément recommandé, mais permis, au cas où la rupture est trop grande. En dehors de ce cadre, dit Jésus, le divorce n'est pas permis, car le mariage est un écho de la fidélité de Dieu. Le mariage pointe vers l'engagement que Dieu, l'époux de Christ, a envers son épouse, son peuple, l'Église. Est-ce que Dieu nous renvoie lorsqu'il se fatigue de nos fautes répétées? Non, il tient sa fidélité envers nous. À un point qu'il envoie son propre Fils pour nous racheter de nos fautes. Le mariage, donc, n'est pas un cadre qui convient pour autant de temps que cela me convient, que cela me va. Le mariage ainsi conçu est comme parfois je dis lors des mariages, un long voyage à deux en voiture vers une destination. Au début du mariage, de la cérémonie, le couple, ils ont fait le plein de leur amour, tout va bien. Et si on roule prudemment pendant des longues années, nous arriverons avec encore suffisamment d'amour dans le réservoir. Et c'est une réussite. Mais d'autres seront moins chanceux. Ils vont rouler un peu imprudemment pendant trop de temps. Et à un moment donné, le réservoir est vide. Et ils tombent en panne. L'amour n'y est plus. Mais vous savez, l'amour, ce n'est pas une quantité fixe que nous pouvons donc épuiser à un moment donné. Ah, désolé, je n'en ai plus. Non, c'est une expression réfléchie et renouvelée d'un engagement qui continue. Le chrétien n'est pas libre de mettre fin à son engagement quand il découvre en cours de route qu'il y a certaines choses moins aimables qu'il trouve chez son conjoint. Vous trouvez ses habitudes moins drôles qu'avant? Vous trouvez que son apparence physique n'est plus ce qu'il était auparavant? Vous trouvez qu'il ou elle est devenu trop conservateur pour votre goût, trop impulsif pour ce que vous aimeriez? Dans ce cas-là, comme j'ai eu l'occasion de dire à un ami qui cherchait à justifier son désir de se séparer de son conjoint pour des raisons semblables, je ne me souviens pas d'avoir entendu des sous-conditions de ce genre lorsque vous vous êtes engagés l'un envers l'autre devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a créé le mariage, pour que vous vous engagiez à l'amour dans l'avenir, même lorsque vous trouverez cela difficile. Divorcer pour de telles raisons rend le conjoint, ici la femme, dit Jésus, adultère. Probablement cela signifie victime d'un adultère, tout comme la partie coupable commet l'adultère en faisant cela, parce que Dieu les voit toujours comme étant un couple. Beaucoup d'autres choses sur le divorce pourraient être dites, chers amis, j'en suis conscient. Lorsque nous avons affaire au divorce et au remariage, il y a souvent beaucoup de complexité. Il y a d'autres textes aussi qui font croire, à mon sens, que d'autres exceptions graves existent également. Mais le but ici, c'est de ne pas qualifier ce que Jésus dit pour nous encourager à y penser, mais de faire l'inverse, de nous stimuler à un engagement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci de venir me trouver ou l'un des autres anciens pour en parler si vous êtes troublé actuellement par cette question. D'un engagement précis dans le domaine du mariage, Jésus ensuite se tourne vers des engagements de façon plus générale. Quatrièmement, qu'en est-il de la fiabilité de votre parole? Cette question est importante, car nos amis, les scribes, les pharisiens, ont trouvé un moyen d'adoucir leurs engagements. Quand la loi disait que si tu prêtais serment au nom de Dieu, il fallait la quitter. Mais eux, ils disaient, par exemple, ce que s'ils avaient juré rien que par le ciel ou la terre, ils pouvaient ne pas acquitter le serment. Ou s'ils disaient « par Jérusalem » au lieu de « vers Jérusalem », encore ils étaient dispensés de leurs obligations. C'est la version ancienne de un peu croiser les doigts derrière le dos pour ne pas devoir dire la vérité. Dans un tel contexte, Jésus remet de l'ordre et il dit qu'il vaut mieux ne pas jurer. Point. Car ce qui compte dans un monde où le Dieu de la vérité nous regarde et nous entend, c'est que notre oui soit oui et notre non soit non. Car c'est ridicule de croire que certaines choses que nous évoquons sont moins importantes que d'autres. D'évoquer donc le ciel, après tout, c'est le trône de Dieu, il dit, et la terre, c'est son marchepied. Donc, jurer sur ta tête, c'est qui a créé cette tête? C'est Dieu. etc., etc. Quelle pensée tordue de croire que l'une ou l'autre chose peut vous excuser de devoir faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. Ce que Jésus vise, donc, c'est d'être fiable. Cela vient, il dit, du père des mensonges. Devant le roi, si tu étais ni menacé, cela peut toujours servir à quelque chose. Et Dieu lui-même jure dans l'Écriture, afin d'aider les gens à croire. Paul aussi, de temps à autre, fait appel à des témoins pour donner du sérieux à ce qu'il dit. Non, ce qui est en jeu ici, ce sont des stratégies que nous employons pour revenir sur notre parole. Voici quelques exemples. Ah oui, oui, pardon. Mais en fait, ensuite, j'avais reçu un appel, tu sais. Ah oui, oui, je suis malade. Désolé. Ce serait difficile pour moi de venir. Et ensuite, je me rends au concert de Taylor Swift, car tout d'un coup, je me sentais mieux. Malgré mon engagement de fréquenter mon assemblée régulièrement ou d'arriver à l'heure pour pouvoir bien exercer la tâche à laquelle je me suis engagé, je réclame très vite la fatigue ou les enfants pour ne pas m'y rendre ou pour ne pas être à l'heure. Tandis que, bizarrement, la même fatigue ou les mêmes difficultés ne se sont pas présentées lorsqu'il s'agissait d'assister au spectacle de ma fille. Pas très intéressant de remarquer cela, n'est-ce pas? Nous devons être caractérisés par la fidélité à notre parole, au lieu de se cacher derrière des excuses pour me disculper de mes responsabilités. Au lieu de nous présenter toujours sous notre meilleur jour pour désavouer notre propre faute de responsabilité, nous devons plutôt faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. N'y a-t-il jamais d'exception? Bien sûr. Mais ici, méditons cette règle générale, que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Qu'en est-il, cinquièmement? Encore deux à faire, les amis. On tient le coup? Ok, réveillez celui à côté de vous si c'est nécessaire, si vous voulez bien. Buvez de l'eau, faire le nécessaire. Qu'en est-il des limites que vous fixez pour défendre votre honneur? Le cœur de ce que Jésus dit ici, c'est que si la loi prévoyait un moyen de limiter le mal en établissant le principe œil pour œil, dent pour dent, cela avait été ensuite utilisé par des interprètes pour établir une justification de vengeance. Ben, Jésus nous dit ici que cette loi pointe du doigt ce que Jésus établit ici, qu'il ne doit pas avoir une rétribution quelconque dans le cœur du croyant. Bien sûr, Jésus parle ici à des individus, pas à des gouvernements. Ici, nous ne trouvons pas un plaidoyer que l'Ukraine, à titre d'exemple, non seulement donc cède sa territoire à l'agresseur, mais qu'elle fasse aussi le nécessaire pour que, par exemple, la Moldavie cède aussi son indépendance à la Russie. Ce n'est pas ça ce qui est en jeu. Non, il vise ici la vengeance personnelle. Pas simplement un principe de ne pas envenimer une situation, mais plus que cela, une attitude de bonté et de service envers les autres. Il y a quatre exemples qu'il donne. Si quelqu'un te frappe, ben c'est un contexte, bien sûr, d'insulte, pas d'abus, où Jésus dit, nous devons tendre aussi l'autre joue. Le prochain contexte est légal. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise comme garantie à ce moment-là, non seulement tu peux lui donner ce qui a moins de valeur, ta chemise, mais également ce que tu estimes être plus cher, ton manteau, ton vêtement. Troisième exemple, si un soldat te réquisitionne pour l'accompagner pour un mille, ou un mile on dit en anglais, au lieu d'être grincheux, car il t'a empêché de regarder Belgique-Roumanie hier soir, fais un deuxième mile avec lui. Et le dernier exemple nous exhorte de ne pas être concerné par notre propre honneur, chers amis, notre propre intérêt, mais d'être disposé à tout moment d'aider, de prêter, de donner lorsqu'on nous demande. Est-ce que quelqu'un peut se servir de ces propos pour tordre ces consignes pour manipuler un chrétien à devoir donner ce que eux, la personne qui demande, ce que eux ils veulent. Bah, hélas, bien sûr que oui, on peut jouer avec le texte de ces manières-là. Mais on aura tort de faire cela. Ce que Jésus veut, c'est que l'engagement d'un disciple comprend au centre une attitude de service, de se donner pour les autres, plutôt que de chercher ce qui me convient, moi. C'est pourquoi j'ai essayé de rendre l'application de cela compréhensible aujourd'hui avec cette question de fixer des limites pour défendre notre honneur. Parce qu'au lieu de réclamer nos droits, nous suivons quelqu'un qui a renoncé aux siens. Si nous mettons donc des limites à ma patience, à mon aide, à ma bienveillance, alors je retombe dans un esprit de revendication, de vengeance, de rétribution, où le moi redevient sur le devant de la scène. Mon honneur vaut plus que le bien de l'autre. Et donc, qu'en est-il sixièmement et dernièrement de ceux qui ont droit à votre amour? Car les scribes et les pharisiens ont également mis des limites sur le commandement d'aimer. Tu aimeras ton prochain, ça vient de la Bible, et ensuite tu détesteras ton ennemi. C'est une façon d'interpréter ce que l'Ancien Testament disait. Mais Jésus ne permet pas qu'on se serve de ce principe de aimer mon prochain et donc de détester notre ennemi pour justifier un manque d'amour. Non, car même mon ennemi est mon prochain. Et s'occuper uniquement de ceux que je décide d'appeler mes prochains, cela me permet de mettre beaucoup de personnes que j'apprécie moins dans la catégorie d'ennemis. Faire cela, et les disciples de Jésus ressemblent au monde, il le dit. Il ne sert à rien de protester à quel point, je suis aimable, vois-moi, je suis généreux avec ceux de mon entourage. Mais vous savez quoi? Presque tout le monde s'occupe des siens, c'est ce que Jésus dit, verset 46. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense auriez-vous? Les collecteurs des taxes eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? L'amour auquel nous sommes appelés se distingue du monde car nous cherchons le bien même de nos ennemis, ceux qui ne sont justement pas comme nous. Je pense que l'un des indices d'un jeune disciple qui grandit dans la foi, c'est qu'il n'est plus simplement en train de se faire entourer avec des gens qui sont comme lui. Mais il est en train de s'investir dans des relations avec ceux qui ne lui ressemblent pas. Et ça se voit, cela, chers amis. Ceux qui se donnent d'eux-mêmes de façon généreuse, chaleureuse, coûteuse pour le bien des autres. Cela est une action intentionnelle, réfléchie, et cela se fait de façon fiable et régulière. Se donner par amour égale d'être présent donc régulièrement dans un contexte d'église pour pouvoir s'intéresser suffisamment pour connaître les besoins des uns et des autres. Que pouvez-vous faire, chers amis, pour déjà faire preuve de cet amour au sein de cette assemblée? Dieu t'a fait la grâce de te mettre dans son royaume. Il ne t'a pas choisi sur base de tes qualités, vous savez, de vos ressemblances à lui, car vous vous entendez bien naturellement, toi et Dieu. Non, la Bible nous dit que lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Ah, il a fait ça, pas seulement donc pour toi, mais il a fait ça pour ta sœur, pour ton frère, en Jésus-Christ. Pour ce que tu appellerais en dehors de ce contexte-là, éventuellement tes ennemis, ce que tu n'apprécies pas, comme c'était le cas de George Foreman et Mohamed Ali. Vous n'avez que de la place, vous, pour ceux que vous appréciez naturellement, cela fait preuve d'immaturité chrétienne. Alors on y est, les amis, à la conclusion. Il est temps. Une justice qui vous caractérise, une justice qui vous donne soif. Voilà le portrait que Jésus dresse d'une justice qui surpasse celle des scribes et les pharisiens qu'il nous faut pour entrer dans le royaume des cieux. Une justice, bien sûr, dont Jésus lui-même faisait preuve. Lui qui a bu la coupe de la colère de Dieu pour nous sauver d'un jugement à venir, suite en partie à notre propre colère. Lui qui nous a aimés à un point qui donnait sa propre vie en rançon pour beaucoup. Lui qui, lorsqu'on a insulté, n'a pas répondu. Verset 48, vous serez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. La norme, c'est lui, c'est Dieu. Mais ce même Jésus, par son esprit, il œuvre aujourd'hui parmi nous. Oui, nous sommes conscients, nous ne sommes pas parfaits. J'espère que vous êtes conscients que ça soit le cas. Nous sommes plutôt, si nous sommes disciples de Jésus authentique, peinés par cela. Nous ne cherchons pas à nous justifier en disant, mais regarde tous ces trucs externes, religieux que je fais. Non, nous sommes conscients du progrès qu'il y a à faire dans notre cœur. Mais nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous a ouvert les yeux afin d'être peinés par ce qui se trouve dans notre cœur. Et par la grâce de Dieu, nous voulons, nous désirons qu'il œuvre en nous. Nous voyons ce besoin. Cela fait bon signe si c'est votre réaction à la fin de ce texte. Soyons encouragés, chers amis, que oui, c'est une justice qui vous caractérise, bien qu'il y ait encore des progrès à faire. Comment Jésus avait commencé le sermon sur la montagne? On l'avait dit déjà la semaine dernière. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ensuite, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais si je ne ressens aucune pauvreté d'esprit, aucune faim ou soif de la justice, si je suis juste content avec qui suis-je, je ne veux rien changer, je veux réclamer mes droits, alors là, le Seigneur nous invite à nous tourner vers Jésus-Christ pour le pardon et la paix et la transformation. Prions ensemble pour terminer. Seigneur, nous avons besoin toujours de ton esprit pour nous éclairer là où il y a encore des progrès à faire, pour œuvrer dans notre cœur pour que cette transformation poursuive sa course. Donne-nous, Seigneur, de voir la sainteté, la pureté, la justice de Jésus-Christ. Donne-nous de vouloir cheminer dans cette même direction-là. Si tu as mis ce matin ton doigt sur l'un ou l'autre domaine où il y a des choses à faire, nous te demandons que tu nous donnes non seulement le courage, mais aussi la joie de suivre ta voie, de t'obéir. Mais donne-nous toujours de faire cela avec une pauvreté d'esprit. Donne-nous toujours d'avoir aussi cette joie de pouvoir chercher avec notre faim, avec notre soif, cette justice dont nous avons besoin. De connaître que nous serons un jour rassasiés. Et si, Seigneur, tu œuvres pour la première fois dans le cœur de quelqu'un ici présent, conscient que jusque-là, ils n'ont pas été vraiment concernés par ce que tu dis ici, nous te demandons, Seigneur, que ces personnes-là découvrent en Jésus-Christ le pardon et la paix. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.